Les pieds sur terre, Sonia Kronlund
et Delphine Seltel.
Des histoires, des enquêtes, des reportages.
Parce que c'est comme ça que les choses arrivent.
Asma, c'est la première. Elle a 20 ans, vit près de Villepinte, en Seine-Saint-Denis. Père déménageur, mère assistante de vie scolaire, un frère, une sœur jumelle. La deuxième, à 17 ans, s'appelle Tessa, famille nombreuse, en Seine-Saint-Denis aussi. Elles ne se connaissent pas, mais toutes les deux, à un moment de leur adolescence, pour des raisons diverses, ont décroché du collège ou du lycée. Au début, sans doute, juste quelques absences dans le carnet de correspondance, et puis, petit à petit, des parenthèses qui s'allongent en semaines, puis en trimestres entiers, et à la fin, des années scolaires carrément blanches, leurs noms rayés de la liste dans le cahier d'appel, puis signalés au rectorat. « Boys will be boys », disent les Anglais. Depuis, un peu de vie a passé, et récemment, Asma et Tessa avaient toutes les deux, mais chacune de leur côté, étaient prises en charge par des structures spécialisées et retrouvaient un peu d'assiduité. Asma au micro lycée du Bourget, un établissement qui a mis en place un dispositif pédagogique pour les décrocheurs. Tessa, elle, dans une association de Saint-Denis, Rencontre 93, qui notamment accompagne les élèves déscolarisés. Asma et Tessa s'accrochaient donc, toutes les deux, à nouveau à l'école, quand, au printemps 2020, au mois de mars, le premier confinement est venu percuter leur trajectoire déjà bien agitée. Ce qui l'a accéléré, modifié, ce qui l'est venu bouleverser ou réveiller, elle le raconte aujourd'hui dans Les Pieds sur Terre, 11e jour du deuxième confinement. Asma et Tessa, décrocheuses, confinées, leur histoire en miroir, jusqu'à 14h, restée verticale par Sophie Simoneau.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Je m'appelle Asma, j'ai 20 ans, et je dirais que mes difficultés à l'école ont commencé en quatrième. J'avais une sœur jumelle, et on était toujours dans la même classe, et en fait on a été séparés au collège. Et en fait, c'est pile à ce moment-là où j'ai commencé à me faire harceler, et elle aussi. C'était au collège. En gros, on me traitait de zombie parce que en classe, j'étais complètement éteinte, je dormais. Et puis j'avais toujours aussi beaucoup de cernes. J'avais beaucoup, beaucoup de cernes. Depuis que je suis jeune, depuis la primaire, je suis quelqu'un de très anxieuse. Et du coup, je dormais. J'ai jamais eu un super sommeil. Du coup, en classe, j'étais pas très concentrée. Mais j'avais quand même des bonnes notes. J'arrivais à gérer ça en primaire. Mais au collège, j'arrivais plus à gérer parce que. Enfin, pour eux, ça paraît pas comme du harcèlement. Mais au bout d'un moment, moi, je me souviens que c'est pas méchant, zombie. Mais au bout d'un moment, c'était tous les jours. Et du coup, j'en avais marre qu'on m'étiquait comme ça. Quand je voyais les gens populaires, je me disais, mais j'aimerais bien être comme eux, avoir plein d'amis, rigoler avec tout le monde. Moi, on me disait que. Il y avait beaucoup de gens qui disaient que j'étais moche. Du coup. Quand les perturbateurs, ils faisaient un peu n'importe quoi en classe, je voulais être avec eux. Du coup, j'essayais de paraître cool. Et du coup, j'ai mes résultats qui ont chuté parce que je travaillais plus du tout. Je voulais plus aller en cours. Je séchais beaucoup. Et puis, j'avais aussi une mauvaise image des profs. Moi, j'ai été dans un collège à Villepinte et de base, c'était pas un collège très réputé. Il y avait des profs qui étaient méchants. Enfin, j'avais un prof, je me souviens, un jour, il y avait un prof qui m'avait rabaissé dans toute la classe. Je sais plus exactement ce qu'il m'avait dit, mais en gros, déjà, mes parents, ils avaient des problèmes d'argent. Enfin, les profs, ils savaient. Et en gros, il m'a... devant tout le monde, il a parlé de... Il disait que... Enfin, en gros, il a dit devant tout le monde que j'étais pauvre. Enfin, c'était... Je me souviens que ça m'avait marqué, ça m'avait fait pleurer à la fin du cours. Et les élèves, je me suis dit peut-être qu'ils allaient me défendre. Mais en fait, pas du tout. Ils sont venus me voir, ils m'ont dit « Mais Asma, tu sais pas te défendre. » Ils m'ont dit... Enfin, on m'a dit ça. On m'a dit « Mais t'es une vraie salope, tu t'es pas défendue. » En gros, pour eux, salope, ça veut dire que j'avais pas de caractère, en gros. Que je me suis laissé faire, quoi. En fait, je m'étais fait une idée de l'école hyper négative. Enfin, je me disais que les élèves, déjà, ils étaient. Je me disais, il y a des méchants partout. Les gens, ils pourraient se moquer de moi partout. Donc, changer de lycée, ce serait même pas une solution. Et en fait, j'ai commencé à avoir des troubles alimentaires. Donc, je pense que c'est aussi lié à ça. J'ai commencé à être. J'ai eu une phase d'anorexie. Et je sais pas si ça a vraiment joué sur mon moral. Je sais pas si c'est ça qui a joué sur mon moral ou c'est juste. Le fait que je prenais sur moi et que je disais à personne, ni à ma sœur, ni à ma mère. Et en fait, pile poil à cette période-là, il y a ma sœur jumelle qui a eu un cancer. Et du coup, déjà pour moi, c'était impossible d'aller en cours sans ma sœur, en fait, parce qu'elle était hospitalisée. Et puis je me disais que c'est quand même un cancer et que si elle venait à mourir, j'aurais voulu profiter d'elle. Donc j'ai complètement arrêté les cours. J'ai inventé une excuse à ma mère, j'ai dit ouais. Enfin, en fait, de base, mes parents savaient que j'étais fragile, ils voulaient m'emmener voir un psychiatre et tout ça. Du coup, j'ai joué sur ça, j'ai dit oui, je suis trop angoissée pour aller en cours, mais c'était juste parce que je voulais profiter de ma sœur. Et en seconde, j'ai complètement arrêté au bout du deuxième trimestre. Et donc, mon quotidien, c'était ma sœur malade, mes parents, j'avais plus trop d'amis parce qu'ils allaient tout le temps en cours. Donc, en fait, c'était. Ma famille, c'était pas non plus hyper joyeux, donc ça m'a pas aidé en fait. Entre-temps, ma sœur, elle est décédée fin année 2016, en août. Mais du coup, pour moi, c'était impossible de reprendre les cours. J'ai dit à mes parents que clairement, mentalement, c'était pas possible pour moi. Je suis restée 6 mois en faisant rien du tout. Et en fait, j'ai commencé à être, enfin, me mutiler et être, enfin, j'avais des troubles de l'humeur. J'étais des fois super agressive, des fois j'étais hyper triste, des fois j'étais hyper heureuse. Et j'étais vraiment pas stable. Du coup, j'ai été hospitalisée en psychiatrie et ça a duré 3 ans. À la fin de mon hospitalisation, j'ai eu un déclic. Je me disais, mais en fait, là, je suis en train de perdre du temps. Ça fait beaucoup, ça fait 3 ans que je fais rien. Il faudrait que je me reprenne en main. Et puis, je sais pas, c'était bizarre. Ma dernière hospitalisation, j'étais un peu dégoûtée du monde de psychiatrie. Et du coup, je me disais, j'ai pas envie de revenir là-bas. Donc, faut que je m'en sorte. Faut que j'aie mon bac pour faire des études qui me plaisent. Et du coup, je me suis inscrite au micro-lycée. Au Bourget, qui est un lycée de décrocheurs. J'ai été acceptée et j'ai été scolarisée en première. Ça, c'était l'année dernière, tout allait bien, et puis le confinement est arrivé. Ce confinement, je l'ai mal vécu parce que pour moi ça a été comme un flashback en fait, ça a été comme si c'était un retour en arrière durant mes 3 ans de déscolarisation. J'avais plus de rythme, je me couchais à 6 heures du matin, je me levais tard. Pour moi il y avait plus rien qui n'avait de sens en fait. Je me disais le confinement il va durer longtemps, même si je m'investis dans quelque chose, à quoi ça va m'amener? Ça se trouve que le confinement il va durer 6 mois et puis et ensuite, ça se trouve, les cours, ils vont même pas reprendre cette année, en fait. J'avais des cours en visio, et chez moi, j'arrive pas à me concentrer. Si je suis pas entourée, si je suis pas sur une chaise avec un prof qui me dit de faire ce que je dois faire, je peux pas me concentrer, en fait. Et puis j'avais plus trop la tête à ça parce que mes troubles alimentaires, ils se sont empirés. Comme j'étais toute seule et que j'étais. En fait, j'avais l'impression que je me faisais face à moi, en fait. J'étais toute seule avec mes idées. Il y avait. Enfin, chez moi, on était un peu isolés. Mon père, il faisait les travaux. Mon frère, il jouait aux jeux vidéo. Ma mère, bon, c'est cliché, mais elle faisait la cuisine. Du coup, on était un peu tous isolés dans notre coin. On faisait notre truc. Et du coup, moi, j'étais face, toute seule à mes pensées. Et du coup, il y avait des moments où je mangeais plus. J'étais dans ma chambre, tout le temps dans ma chambre. J'étais tout le temps sur mon lit. Je me levais même pas. Et j'en ai pas parlé à mes parents. Et puis, ils s'en sont pas rendu compte, en fait. Parce que, ils me voyaient pas trop. Vu que, On n'avait plus nos habitudes de repas de famille le soir. En fait, on était tous décalés. Donc, c'était vraiment. Moi, je mange de mon côté, je fais ma cuisine. Et puis, moi, le seul moment où on se réunissait, c'était. Des fois, il y avait des films qui pouvaient être bien regardés à plusieurs. Du coup, on regardait, mais on faisait pas plus attention que ça, quoi. On était tous un peu perdus. Donc au bout de 2 mois, il a fallu ressortir. Mais moi, personnellement, je m'étais trop ancrée dans cette routine, en fait. J'étais tout le temps dans ma chambre. Je voulais plus sortir parce que déjà j'avais. En fait, ma période d'anorexie-boulimie m'a un peu déstabilisée vis-à-vis de mon corps. J'étais hyper complexée, donc je voulais pas sortir, je voulais pas que les gens me voient. Je voulais être seule, je voulais plus voir personne. Je supportais plus d'être dehors. Et après, ça a duré 2 mois. Enfin, je suis pas vraiment sortie, j'ai dû sortir 2-3 fois pour faire les courses. Mais du coup, pour moi, c'était compliqué et puis ça m'a. Quand j'ai recommencé à sortir au bout de 2 mois, je me sentais anxieuse et je comprenais pas pourquoi, mais je me disais aussi que c'est peut-être parce que j'ai pas été en contact avec des gens depuis longtemps. Ensuite, je pense que c'est plus en août où là, j'ai recommencé à avoir une vie normale en fait. Je sortais, je voyais mes amis, et puis j'étais préparée mentalement. Enfin, j'étais contente de me dire, mais en fait, ça va être la rentrée, je vais pouvoir avoir une vie normale en fait. Moi, j'appréhendais parce que durant le confinement, j'ai suivi aucun cours. Je me suis dit, mais comment je vais faire? J'ai été décalée par rapport au programme. Enfin, ça va être compliqué. Et puis au final, quand je suis revenue, c'est super bien passé. Je pense que ça m'a quand même abîmée parce que. En fait, pour moi, avant le confinement, ma vie, enfin, on va dire que j'étais en hausse en fait, que j'étais plus vers la voie de la guérison en fait, c'est comme si c'était un graphique qui allait vers le haut. Et quand il y a le confinement, j'ai l'impression que ça m'a complètement coupé. J'ai l'impression qu'il y a une asthme avant et après le confinement. Et en fait, pour moi, c'était vraiment une rechute. Et du coup, maintenant, j'ai l'impression que je fais un peu ça, quoi. Je fais des vagues. Genre, j'ai l'impression de revivre. Ma période où j'essaie de m'en sortir et du coup c'est compliqué parce qu'il y a des hauts et des bas. Puis même l'année dernière quand j'allais en cours, j'ai jamais eu d'angoisse. Là, cette année ça recommence. Je pensais à plein de détails bêtes. Par exemple, je sais pas si je vais me refaire dans une flaque par terre, je vais me dire mais peut-être que là on voit beaucoup mon double menton. Enfin, c'est un peu obsessionnel mais je pense beaucoup à ça en fait. Après, ça va parce que là, depuis le début de l'année, j'ai pas raté de cours. Parce que je me force, je me dis que. Je pense que j'ai perdu tellement de temps que là, j'ai plus envie de. Vraiment, j'ai plus envie d'arrêter les cours. En fait, j'ai l'impression que là, je suis quand même plus armée qu'avant, en fait. Donc ça va, mais. J'ai quand même peur de la rechute.
Je m'appelle Tessa, j'ai 16 ans, bientôt 17 ans. Et avant le confinement, ça faisait 2 ans que j'avais décroché l'école, la scolarité et tout ça. J'étais depuis petite dans une école privée, du coup qui était située à Sarcelles. Et depuis le début, vraiment, j'avais des problèmes, je me sentais pas à ma place. C'était coranique et vu que c'était pas mon choix d'être dans cette religion. Moi je me sentais pas à ma place, j'étais un peu forcée, je devais suivre les mêmes règles qu'eux, je me suis dit pourquoi je devrais faire ça, en fait j'ai pas choisi ça. Du coup oui, j'ai commencé à me révolter, j'ai commencé à hurler sur les profs, j'ai dit non je vais plus aller en cours, j'ai même fait une crise mais c'était pas volontaire, j'ai pété un câble, une crise de nerfs, j'ai saigné du nez, je me suis évanouie plusieurs fois, Mon cerveau, il a pété, il a dit je peux plus être là. Et du coup, mon père qui voulait pas que j'aille au public. Et après ça, bah, y a eu un placement avec l'aide sociale à l'enfance. J'ai été placée plusieurs fois et au bout d'un moment, j'ai été mise dans une famille d'accueil qui m'a inscrite dans un collège. Et ils m'ont fait voir la conseillère d'orientation et c'est à ce moment qu'en fait elle a commencé à me dire oui, tu devrais suivre une voie générale et pas professionnelle. Et moi je voulais me spécialiser, en fait j'étais même pas encore sûre, mais je sais que j'ai toujours voulu travailler avec les animaux. Sachant qu'en fait moi je lui disais clairement ce que je voulais pas rester assise devant une chaise avec d'autres élèves et continuer à ma scolarité comme ça. Je voulais vraiment passer sur le milieu du travail, apprendre en apprentissage, vraiment voir de mes yeux et pas juste devant un tableau quoi. Et du coup, en fait, ils m'ont mis dans une classe classique et ça s'est pas bien passé. Et ensuite, j'ai été dirigée vers une autre classe vu que ça se passait un peu mal et ils m'ont dirigée vers une SECPA. Et SECPA, en fait, je savais pas du tout ce que c'était. Et je savais pas du tout, du coup, j'ai commencé à demander à des gens dans la classe, ouais, ça veut dire quoi, SECPA, pourquoi on m'a mis dans une classe SECPA. En fait, ils ont tous commencé à rigoler, ouais, SECPA, c'est la classe la plus basse, c'est la classe des bouffons, ceux qui sont nuls. C'était la classe vraiment la plus basse, quoi. On m'a dirigée vers cette classe et j'ai jamais su pourquoi, parce qu'après, je me suis enfuie. J'ai dit à ma famille d'accueil, je peux plus. Ça sert à rien, je peux plus. Et du coup, là, bah, à partir de ce moment-là, j'ai pu être scolarisée pendant un petit moment. Avant le confinement, j'étais perdue, même moi dans ma vie privée, j'étais perdue, je savais plus où j'en étais, je savais plus où était ma place, ce que je devais faire pour mon avenir, pour me diriger et pas finir à la rue ou quelque chose comme ça. Et pendant ce confinement, au début c'était phase dépression, parce que j'étais retournée dans ma vraie famille, à cause de complications avec l'aide sociale à l'enfance qui n'en pouvait plus le bon cas. Ça va faire des années que vraiment je parle à personne, mon père ça, je lui parle pas parce que c'est critique, t'as pas le même mode de vie que nous, t'as pas les mêmes principes, on peut pas cohabiter avec toi, mes frères si on se parle c'est y a des coups qui partent, on se déteste et on peut pas cohabiter ensemble en fait, si on se croise dans le couloir, même le matin il y a pas de bonjour, il y a rien, on mange pas ensemble, du coup ouais ça s'est pas bien passé.
Pendant le confinement ?
Ouais, c'est ça, pendant le confinement, je vais chercher la bouffe dans la cuisine et je mange dans ma chambre et je reste dans ma chambre, je vais aux toilettes, je vais dans la salle de bain, je retourne dans ma chambre et aucune conversation avec personne. Si on se parle, en fait, ça va automatiquement finir en bagarre, même les petites conversations. Et il va y avoir des gros coups, pas des petits coups, des petites bagarres, des petites insultes, il va y avoir vraiment des gros coups, du coup, faut éviter ça. Mon père, du coup, c'est vraiment, il a eu de. Il veut avoir un contrôle sur tout le monde en fait, même dans la famille, ma mère, il veut vraiment avoir le contrôle sur tout, le style vestimentaire, mettre des vêtements longs, toujours le voile, la jupe qui recouvre les pieds, enfin on peut rien voir. Moi personnellement je leur reproche déjà de pas accepter la personne que je suis. Je suis agnostique et ça leur convenait pas du tout. Si je mets pas le voile, ils veulent que je mette le voile. Par exemple, le chantage pour retourner à l'école privée, c'était que tu mets une jupe et je t'offre un téléphone et tu y retournes et t'enlèves plus la jupe. Et du coup, je me suis retrouvée à 7 ans avec voile et jupe. J'avais pas les mêmes vêtements que les filles dans ma classe. Je me suis dit, mais je connais pas ces vêtements, je connais pas les marches, je savais même pas c'était quoi de la 4G. Et du coup, vraiment, quand je me suis révoltée, j'ai fini débardeur chez moi et tout. Ils en ont marre, ils me font des remarques à t'es dégueulasse et tout, même des insultes salopes et tout. Quand je passe dans le couloir, ton physique il ne correspond pas, faut que t'arrêtes de bouffer par exemple, sale porc et tout. Sachant que j'ai des formes par rapport aux femmes de ma famille, c'est vraiment, on voit un peu ta poitrine. Du coup, moi j'étais là, tu veux que je la coupe, je fais quoi, c'est pas mon choix, c'est pas moi qui ai choisi. Enfin, vraiment des critiques agressives qui m'ont poussé psychologiquement à aller super mal. C'était vraiment pour me mettre mal, en fait. Mais je fais plus attention parce que je me suis dit que j'ai choisi ma voie et ils vont pas contrôler. Enfin, je me suis mis dans la tête et je suis super têtue. Je suis vraiment comme ça. Pour moi, le problème, c'est pas l'islam, c'est mon père. C'est-à-dire que c'est le fait qu'ils mettent la religion, du coup...
à son niveau, qui remixe la religion et que l'islam, bah, c'est pas du tout ça. Et c'est vraiment ça qui est dérangeant, en fait. C'est pas la religion, c'est les gens. C'est les gens, comment ils l'interprètent, comment ils la, en fait, bah, ils la retournent. Et qui fait que bah, les autres personnes, en fait, la voient négativement, comme ce qui se passe en ce moment, etc. Bah, chaque personne, comment elle voit la religion, ça a un impact négatif, en gros, sur bah, la religion, qui est pas forcément mauvaise en elle-même. Je pense que c'est aussi que j'ai pas du tout la même vision des choses qu'eux. Je vois les choses plus loin et eux, ils sont vraiment fixés sur leur religion et y a rien d'autre. Pendant 2 mois, ça a été ça. J'ai vécu ça pendant 2 mois, tout le confinement. Et ouais, c'était compliqué pour moi, j'étais bloquée. C'était vraiment la sensation d'être retournée à zéro et de plus avoir de pouvoir du tout sur mes choix, mes décisions, sur moi-même, comme au début, avant le placement, quoi. Ça a été tellement horrible que, bah, paradoxalement, ça m'a créé un déclic. Je me suis dit, c'est le moment d'agir, c'est le moment de changer, c'est le moment d'avancer, faut plus que je reste bloquée. Du coup, bah, j'ai vraiment commencé à aller voir les éducateurs juste après le déconfinement. J'aurais fait, ouais, voilà, c'est ce que je veux faire. Je veux travailler dans les animaux, c'est ce que je veux faire. Je veux voyager, je veux faire le tour du monde, parce que mon rêve, c'est de faire le tour du monde. Du coup, ils m'ont dirigé vers plein de trucs. J'ai fait plein de recherches sur internet et tout. Je leur ai dit en même temps, faut me trouver quelque chose qui va m'éloigner de chez moi parce que le juge, il fout rien. Après, bah, ils ont commencé à me diriger du coup vers une MFR. MFR, du coup, c'est une maison familiale rurale. C'est un peu comme un internat et c'est centré sur les animaux. Et c'est pour apprendre dans le milieu animalier, mais dans un internat, du coup, ce qui va me permettre de m'éloigner de chez moi. Et du coup, c'est une alternance en fait. Je suis un certain temps dans la maison familiale rurale et l'autre temps, du coup, je suis chez un entrepreneur, en fait, un patron qui a vraiment ce que je voulais faire, pas rester devant un prof, devant un tableau, vraiment être sur le milieu et apprendre sur le milieu avec des professionnels. Pour, vu que j'ai pas encore 18 ans, c'était vraiment déjà obtenir un diplôme pour attendre mes 18 ans, pour déjà avoir un diplôme et avoir de quoi faire, leur dire j'ai déjà de l'expérience. Et ensuite me diriger vers une formation 18 ans directement auxiliaire vétérinaire. Et donc c'est positif, j'ai avancé et je me dis que j'aurais jamais pu faire ça. C'est en fait en soi le confinement il y avait pas joué. J'aurais pas pu avoir mon temps pour réfléchir et pour me dire non t'es pas bien, t'es une merde, faut que t'avances. Ça choque un peu mes parents parce qu'ils pensent que je prends les mauvaises décisions. Ils y croient pas du tout à mon avenir. Ils pensent que du coup ça va me bloquer, que je vais être en mode dépressif et pleurer. En fait, dans ma tête, j'ai fait vas-y, tu verras que je vais réussir. Birds flying high, you know how I feel. Comme si j'avais évolué, on va dire en fait. Pratiquement dire, je suis plus une simple humaine. Genre, je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai vraiment évolué, je suis plus la même personne. Je suis vraiment plus la même. Drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Woo, and I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies are having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean.
Encore, c'était Les Pieds sur Terre, un reportage de Sophie Simonneau réalisé par Alexandra Candy-Longuet. Merci à Asma et Tessa, à Kelly et Nassim et à tous les élèves rencontrés pour préparer l'émission, qu'ils aillent à l'école ou pas. Merci aussi à Abdel Adjenoui, Anne Chappet et Johanna de l'association Rencontre 93, ainsi qu'à Aïcha Amgar, Sophie Marshall, Ariane Steiner du micro lycée du Bourget. Et tous ceux qui les accompagnent chaque jour. Notre attachée de production, c'est Mélissa Foust et notre stagiaire François Bréus. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter et podcaster sur France Culture et l'application Radio France.